managériale.
Un rendez-vous proposé par la Maison du Management en partenariat avec Media Meeting et Courrier Cadre.
Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour Parenthèse Managériale, le podcast qui explore, vous fait découvrir et vous partage les nouvelles pratiques du management. Dans ce numéro, nous allons parler d'un livre que tous les managers devraient avoir entre les mains, Le Choix du Vivant, 9 principes pour manager et vivre en harmonie. C'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Et pour en parler, rien de mieux que de recevoir ses auteurs, tout simplement. Marie-Hélène Strauss, manager depuis plus de 25 ans au sein de grands groupes internationaux, vous êtes coach également. Bienvenue à vous, Marie-Hélène.
Merci, bonjour Nicolas.
Avec nous aussi, Éric Julien, qui lui est géographe et consultant en entreprise. Bonjour à vous, Éric.
Bonjour Nicolas.
Alors, je préviens nos auditeurs, c'est un voyage absolument passionnant qu'on s'apprête à faire avec vous, un voyage qui va nous amener en Colombie. On va parler adaptation, créativité, collaboration, énergie, enthousiasme, bref, tout un programme. Mais pour commencer ici, on a un petit rituel, ce sont les invités qui prennent les commandes directement. Marie-Hélène, Éric, vous avez 45 secondes pour nous présenter votre ouvrage, 45 secondes en gros pour nous faire la quatrième de couverture. On lance le chrono et c'est à vous.
À très joué. En fait, nous sommes repartis des questions existentielles, éternelles de toutes les sociétés humaines. Donner du sens, prendre des décisions, gérer des conflits, piloter des projets, voilà, gérer des tensions. On se rend compte que ces questions, elles existent de tout temps et de tout espace. Et donc, on s'est inspiré de sociétés dites primitives, archaïques, sous-développées, autochtones, pour aller regarder comment dans ces sociétés répondent-ils à ces questions. Et aux grandes surprises, leur manière d'y répondre nous semble universelle parce qu'elle s'appuie sur les principes du vivant et une organisation, un chef d'entreprise, un manager, est autant vivant qu'un chaman ou qu'un indien dans sa communauté.
Alors, je rajouterais qu'il ne s'agit pas d'une méthode supplémentaire ou d'une nouvelle pédagogie. Il s'agit vraiment de principes qui sont présents dans la nature, dans toutes les natures, et nous sommes un des êtres de la nature.
Et bien voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle sur le gong. Merci Marie-Hélène, Éric. Allez, je vous propose tout de suite de poursuivre les présentations avec un exercice un peu particulier, vous allez voir.
Le portrait.
Bon, vous connaissez, j'imagine, les règles du portrait chinois. Je vous pose des questions simples, vous répondez du tac au tac. C'est OK pour vous ?
C'est bon.
OK.
Alors, Marie-Hélène, si vous étiez une heure de la journée ?
Je serais midi.
Éric, une couleur ?
Je serais le vert.
Un verbe ?
Agir.
Un héros d'enfance ?
Un héros d'enfance. Blueberry, un cow-boy.
Si vous étiez une personnalité inspirante ?
Le Dalai Lama.
Si vous étiez un mot ?
Alors, sur la personnalité inspirante, je vais la prendre quand même, Albert Jacquard. Et sur un mot, aimé.
Si vous étiez un lieu ?
La mer.
Et maintenant, si je vous demande votre devise ?
Marie-Hélène, ta devise ?
Choisis bien tes mots, car ils créent le monde autour de toi.
Éric, si je vous dis management, à quel mot vous pensez ?
Être en paix intérieure pour accueillir et réagir justement aux situations.
C'est plus qu'un mot, mais j'accepte. Et enfin, un mot dans lequel vous vous retrouvez.
Les deux. À prendre soin. Elle m'a piqué mon mot. Prendre soin. Je remettrai paix intérieure.
Ça montre que vous êtes fait pour travailler ensemble, pour écrire des ouvrages ensemble. Pas facile hein, comme exercice.
Non, merci.
Allez, à présent, je crois qu'on a bien fait connaissance ensemble. Je vous propose de passer à l'interview.
Parole d'expert.
Il est temps de parler du sujet qui nous intéresse dans ce numéro de Parenthèse Managériale, à savoir le choix du vivant pour manager en harmonie avec ce constat, pour commencer, 300 millions de personnes réparties au travers de 77 pays dans le monde. Voilà ce qu'il reste, entre guillemets, comme civilisation témoin d'une période pour nous révolue en Occident, celle où les humains étaient en alliance avec la nature, celle où ils n'avaient d'autre choix que de faire face, de s'adapter pour y arriver. Une époque bien loin des concepts, des innovations et des idées qui régissent aujourd'hui le quotidien de nos sociétés dites modernes, dans lesquelles beaucoup ne se retrouvent plus. Faut-il rappeler cette quête très actuelle, celle du sens ? En entreprise, par exemple, 51% des collaborateurs persistent à dire que leur manager ne leur donne pas de sens. Alors si je fais ce parallèle entre ces deux modes de vie que tout semble opposer, eh bien c'est que tout part de là, dans votre livre, tout part plus précisément de votre rencontre avec les Indiens Kogi en Colombie. Racontez-nous ça.
C'est une rencontre qui a eu lieu pour moi il y a 25 ans, j'étais jeune et gentil, guide de montagne, et je sortais d'une école où on nous répétait à longueur de journée que nous allions faire partie de l'élite de la France. Et l'élite de la France a eu un œdème pulmonaire et l'élite de la France a eu la chance de découvrir la solidarité de la vulnérabilité. Il y a des Indiens, des sauvages, des archaïques, des primitifs, comme on les a appelés, qu'on détruit allègrement depuis 5 siècles, qui ont eu la gentillesse de me ramasser, de me soigner, de me sauver la vie. C'est là que j'ai rencontré cette humanité-là avec laquelle je chemine et nous cheminons, puisque Marie-Hélène aussi, depuis 34 ans maintenant.
Et vous, Marie-Hélène, cette rencontre, comment s'est-elle passée pour vous ?
Beaucoup plus récente, grâce à Eric. J'ai rejoint l'association qu'il a créée il y a maintenant 25 ans, Chendoukwa. Et puis, j'étais manager. Au bout de 25 ans, je ne trouvais plus trop de sens à mon métier dans des entreprises où il fallait travailler toujours plus pour gagner de plus en plus d'argent, au détriment des humains qui n'allaient pas bien. Et quand j'ai rencontré les Indiens Kogi, je leur ai demandé comment ils faisaient pour travailler en harmonie depuis 4000 ans. Et le mot qu'ils m'ont répondu m'a permis de me remettre entièrement en cause, puisqu'ils m'ont dit que gérer des humains, ça voulait dire soigner des humains. Du coup, le travail du manager était de prendre soin des humains qu'il pilotait, et ça, je ne l'avais pas compris en école de commerce.
Ce livre, c'est une véritable invitation aux managers, aux dirigeants, aux chefs d'équipe à se questionner, à s'interroger, et au fond, à prendre du recul sur eux-mêmes. Au fond, ce que vous dites, Marie-Hélène, c'est qu'on ne peut pas manager les autres si on ne se connaît pas soi-même.
Tout à fait. Il est absolument impossible, si on ne sait pas comment fonctionne un être humain et comment soi-même nous fonctionnons, de pouvoir gérer d'autres êtres humains. Comme disent les Indiens, il faut savoir en premier gérer ce cheval fou qui est en nous, c'est-à-dire nos émotions, qui on est, comment on fonctionne, pour être à même de guider et de piloter ensemble une équipe entière vers un objectif commun.
Vous avez parlé de loi de la nature. Comment on fait le lien entre les lois de la nature et le management ? C'est pas forcément une évidence tout ça ?
Pas du tout une évidence, et pourtant, je laisserai peut-être Eric prendre la parole, mais tout simplement, nous sommes des êtres de nature. Nous fonctionnons comme l'ensemble de l'univers qui est vivant sur cette Terre. Les plantes, les animaux, alors on inspire, on expire, et c'est ce qui nous maintient en vie. Du coup, lorsqu'on comprend comment nous fonctionnons, on comprend beaucoup plus facilement et de manière très évidente comment on peut emmener une équipe qui n'est finalement qu'un groupe de cellules vivantes vers un objectif commun, en harmonie.
Mais ce que nous ont appris les Indiens, c'est que finalement, eux ne fonctionnent pas sur la loi des hommes ou les méthodes managériales ou les modes managériales qui changent un peu selon les tendances et les inventions des uns et des autres, mais répondent sur des principes universels qu'on trouve encore une fois dans tous les organismes vivants et qu'on a essayé de réidentifier, de se réapproprier et surtout de décliner en pratique concrète. Parce qu'au bout d'un moment, le manager, il aime bien écouter tout ça, mais il aime bien savoir concrètement comment je m'y prends. Donc on a détaillé des outils très très pratiques qui permettent de remettre de la vie dans les organisations, dans les équipes et de mettre du sens. Et en période d'incertitude, en période où on ne sait pas de quoi demain sera fait, comment on va travailler, si notre entreprise va survivre, remettre un peu de sens, d'enthousiasme, de qualité de lien, quelque part remettre la dimension féminine de l'organisation en place, c'est pas une mode, c'est vital.
Alors cet aspect concret dont vous venez de parler, ça passe notamment par 9 principes que vous avez isolés au terme de 6 ans de recherche, 6 ans de travaux. Quels sont ces principes ?
Alors les principes, ils correspondent évidemment à des valeurs en entreprise, mais pour n'en citer que quelques-uns, on va parler de la loi de rétractation et dilatation, de l'endosymbiose, de l'homéostasie, de la négantropie, de l'apoptose. Ces principes, ce sont des principes biologiques qui sont présents dans la nature et qui sont présents dans une équipe également, puisque c'est juste une juxtaposition de cellules. Pour chacun de ces principes correspond finalement l'une de ces questions universelles dont Eric a parlé, qui vont être donner du sens, décider, piloter un projet, gérer un conflit et même aller jusqu'à la gouvernance d'une entreprise.
Ces 9 principes, parce que nous, on est des gens qui ont besoin de voir pour croire, donc qui sont validés par la science, qui nous disent bien que comment fonctionne la vie dans une organisation et évidemment dans une entreprise. Et si on prend juste petit clin d'œil, l'inverse de la vie, c'est quand même la mort et la réification. Est-ce que les managers ont envie d'avoir une organisation vivante avec des acteurs qui avancent, qui prennent en charge et qui déploient de l'énergie? Ou est-ce qu'ils ont envie d'avoir une organisation statique avec des collaborateurs qui attendent et qui ne prennent pas en charge, qui sont peu autonomes? Je pense que la réponse est assez simple pour un manager. Encore faut-il savoir remettre de l'enthousiasme, c'est-à-dire de la vie en nous.
J'ai envie de vous poser une question. Vous qui les connaissez bien, si les Indiens Kogi étaient là, à notre micro, qu'est-ce qu'ils diraient aux managers qui nous écoutent?
C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'ils diraient? Je pense qu'ils seraient un peu interloqués, pour pas dire effrayés, pour vous donner un principe clé. C'est l'un des principes, le principe du vivant clé, c'est le principe du deux. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. on le retrouve dans le taoïsme, hein, le yin et le yang, c'est-à-dire le masculin et le féminin. Et il serait un peu effrayé de voir qu'on ne fonctionne souvent dans les entreprises qu'avec une moitié de l'intelligence, c'est-à-dire le masculin, la règle, le contrôle, le tableau Excel, le process, tout ce qui permet de contrôler les choses, et qu'on a laissé de côté une autre moitié de l'intelligence qui a du sens, qui apporte beaucoup de valeur, côté féminin, qui est effectivement la confiance, la qualité du lien, le sens. Donc il serait très interloqué de voir nos équipes et nos entreprises fonctionner sur une jambe, d'autant plus interloqué que c'est une perte d'efficacité absolue. Deux intelligences différentes qui savent dialoguer valent beaucoup plus qu'une seule intelligence qui soliloque toute seule dans son coin. Il y a une vraie problématique. Aujourd'hui, la loi d'égalité des salaires hommes-femmes a été votée en 1973. Je crois qu'on est encore dans pas mal de métiers entre 14 et 24% de différentiel de salaire pour le même travail. Donc on voit bien que c'est pas encore gagné.
Alors quand on fait le parallèle entre notre mode de vie à nous occidentaux et celui de ces Indiens Kogi que vous nous partagez depuis quelques minutes maintenant, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même qu'il y a un fossé. La solution que vous proposez avec ce retour au vivant, c'est quoi en fait? C'est un rééquilibrage ou plutôt un rétro-pédalage?
C'est avant tout un rééquilibrage. Je compléterai ce qu'a dit Eric avec votre question, Nicolas. Homme-femme, il s'agit pas, je suis une femme, mais il s'agit pas d'être féministe, il s'agit d'être en équilibre. Pour un Kogi, je rebondirai sur ce qu'a dit Eric, lorsque je lui avais posé la question d'un comité de direction masculin, il m'avait dit, c'est comme si t'étais unijambiste. Donc tu prends une décision en ayant uniquement une jambe, tu vas jamais trouver ton équilibre. Donc en fait, c'est un rééquilibrage, c'est-à-dire qu'il s'agit pas de devenir Kogi. Moi je suis pas Kogi, et même si j'admire leur façon de vivre, j'en suis incapable. Il s'agit de remettre du sens à la façon dont nous vivons et remettre la vie dans tout ce que nous faisons.
Alors, Eric, Marie-Hélène, vous le savez ici, hein, dans ces parenthèses managériales, on se nourrit des expériences des autres. Si je vous demande un exemple concret où le choix du vivant a porté ses fruits dans une des entreprises que vous avez accompagnées, que vous suivez, que vous épaulez, quel exemple vous viendrait à l'esprit?
Une petite anecdote, j'ai travaillé 7 ans pour un groupe de 13 000 personnes au Moyen-Orient. Donc j'étais dans un cadre plutôt masculin. J'avais proposé qu'on essaye de montrer l'exemple dans un pays arabe en équilibrant justement le salaire des hommes et des femmes. Donc, j'étais à l'époque directrice générale de la stratégie et mon CEO m'avait dit, mais Marie-Hélène, il n'y a que très peu d'écart. Donc j'ai dit, ok, on va calculer l'écart actuel. Et puis la réponse était surprenante pour lui, puisque l'écart calculé par le DRH représentait 4 millions de dollars. Pour mettre les femmes et les hommes au même niveau de salaire pour les mêmes postes. Et puis là, on a discuté ensemble. Je lui ai démontré l'intérêt pour son entreprise de rééquilibrer les choses et le message clair que ça passerait dans un groupe de 13 000 personnes au Moyen-Orient. Ben, il l'a fait.
Quelle a été la portée de cette mesure?
Une motivation décuplée pour tous les salariés et pas que pour les femmes. En fait, je me suis aperçue, on a fait une conférence après en France, et je me suis aperçue que mon CEO était extrêmement fier de présenter cette mesure qui a été applaudie par les étudiants français. Et en fait, c'est plutôt les hommes qui étaient fiers de dire, pour nous, le travail, la qualité du travail des femmes ou des hommes, c'est la même. Mmh. Donc c'est de la fierté. Et la fierté, ça amène l'enthousiasme, et l'enthousiasme, ça appelle la joie et la motivation de son travail.
Ouais, la fierté, c'est un moteur, effectivement. Eric, vous avez un exemple, vous, qui vous vient en tête?
Bon, l'exemple qui me vient en tête, c'est le sens dans le corps humain et dans une organisation vivante, ce qu'on appelle l'homéostasie. On dit souvent que le sens guérit, parce que le sens permet aux parties, à l'altérité, de converger dans une même direction. Et j'ai deux exemples très précis. Une entreprise qui fait des pièces aéronautiques, en tout cas qui faisait, et qui avait évidemment des gens sur des machines-outils à qui on n'avait jamais expliqué quel était leur rôle en entreprise, à quoi ils servaient, vers quoi ils allaient, ils faisaient le matin, ils pointaient, ils faisaient leur job, ils repartaient. Tout d'un coup, on les a associés, on leur a demandé leur avis, on les a impliqués. Ils sont pas simplement devenus des collaborateurs, mais des acteurs du processus. Je me rappelle d'un vieux monsieur en bleu de travail, il m'avait dit, c'est la première fois qu'on m'explique à quoi je sers et dans quoi s'inscrit mon travail. Et un autre exemple de sens partagé, c'est dans une collectivité territoriale, une grande ville de 60 000 habitants, où pour la première fois, le directeur général des services a construit les services publics, c'est-à-dire la manière de répondre aux attentes des habitants du territoire, en associant les collaborateurs, en associant les gens sur le terrain et en construisant ensemble le sens. Ça a été tellement fort et tellement surprenant pour les acteurs que quand ça a été présenté, il y a eu un vide, il y a eu un blanc. Je me rappelle, la directrice m'a dit, on a dû se tromper, ils ne réagissent pas. Ils étaient tellement surpris qu'on leur demande leur avis et qu'on les associe à la réflexion, qui est effectivement une surprise.
À présent, si vous aviez une chose, un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et à qui ce livre, vos propos font écho, mais qui ne savent pas par où commencer, ce serait quoi ce conseil ?
Moi, les conseils que je donnerais, c'est simplement respire, assieds-toi et essaie de conscientiser qu'est-ce que tu veux vraiment, c'est-à-dire quelle est ton intention ? Est-ce que ton intention, c'est de prendre du pouvoir ? Est-ce que c'est l'intention, c'est de gagner plus ? Quelle est réellement ton intention quand tu poses un acte managérial ? Et la deuxième chose que je dirais, ne perds jamais ta joie poétique et joyeuse qui permet de garder du discernement et de la distance et pas se faire happer par des logiques parfois entrepreneuriales difficiles. Donc, clarifier pourquoi tu fais les choses, ça peut aider à porter des actions managériales justes et rester sobre, humble et joyeux parce que ça permet de danser quand parfois la météo managériale est un petit peu compliquée et tendue.
Marie-Hélène, vous souhaitez rebondir ?
Rester humble et savoir mettre à profit et porter en avant son équipe parce que c'est grâce à eux qu'on pourra réussir.
Porter en avant son équipe, apprendre à se connaître et à se comprendre avant d'essayer de connaître et de comprendre les autres, se reconnecter à soi et aux valeurs du vivant. Voilà les messages forts que vous nous avez partagés, Eric et Marie-Hélène. On retiendra aussi la nécessité, l'urgence de ce rééquilibrage homme-femme pour marcher sur nos deux jambes, comme vous le dites. Et puis l'essence de votre démarche, de votre conviction, bien sûr, c'est qu'il faut remettre la nature au sein de notre pensée. Et je crois que vous nous en avez fait une belle démonstration. Allez, vous restez avec nous, c'est la dernière partie de cette émission. Bon, vous le savez ici, ce qui nous unit, c'est au fond que bien, ça peut être la crise, ça peut être une période compliquée, pas facile, comme on l'a dit tout à l'heure. On reste quand même positif, optimiste, parce qu'au final, on n'a pas vraiment de choix. Alors, parti de ce constat, j'ai envie de vous demander ce qui vous fait tenir, vous, dans les moments un peu plus difficiles. Au fond, quelle est cette fierté professionnelle, cet accomplissement qui vous redonne de la joie et de l'enthousiasme à tous les deux ?
Alors pour moi, c'est la motivation de mes équipes et à titre personnel, une curiosité insatiable sur comment fonctionne la vie et le vivant pour essayer constamment d'aller dans le sens qui nous permettra de nous en sortir dans la joie et l'enthousiasme.
Eric ?
Ce qui me nourrit ma joie, c'est deux choses. La confiance que m'accordent ou nous accordent nos clients sans laquelle on peut rien faire ensemble. La confiance que nous accorde ces Coggies qu'on accompagne depuis 30 ans pour racheter des terres et leur rendre leurs terres. Et du coup, si on peut être en confiance dans un nous, alors tout ce qui arrive de l'extérieur, tout ce qui surgit, et quelque part le Covid est un surgissement, peut être appréhendé comme une occasion d'inventer, de créer, de s'adapter, de faire le... Et j'essaie de vivre comme des cadeaux et des joies, tout ce qui nous invite à questionner, remettre en cause, inventer, finalement être vivant, parce que la vie ne fait qu'inventer de nouvelles réponses à ce qui surgit. Ça me met de la joie et de l'enthousiasme. Et en plus, quand on peut le faire parfois, quand on fait intervenir des gens dans la musique ou vraiment dans la joie, c'est presque un bonheur.
Allez, juste avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser une toute dernière question que je trouve toujours assez intéressante, assez nourrissante. Si je vous demande maintenant quel livre, quel film, quel ouvrage, en dehors du vôtre, bien sûr, vous pourriez conseiller à nos auditeurs et qui fait écho à ce qu'on vient de se dire et qui vous, d'un point de vue personnel, professionnel, vous a fait grandir.
Alors en livre, je dirais que tout le monde devrait lire les 4 accords Toltèques.
Moi, je reste sur mes ancrages BD-esque. Blueberry, c'est un personnage qui essaye de trouver son chemin dans un monde chaotique en n'étant pas très armé dans sa tête, malheureusement, mais en se nourrissant de chaque expérience qui passe. Et il est fidèle à une chose avant tout, c'est l'amitié. Je pense que l'amitié nous permet de renverser et de traverser les plus difficiles épreuves. En fait, ce que disait Marie-Hélène, prendre soin. Prendre soin de ce qui se passe et prendre soin de l'autre, ça rejoint un peu l'amour.
Et nous, notre choix en matière de livres, eh bien, c'est ce très bon ouvrage qui est le vôtre, Le choix du vivant, 9 principes pour manager et vivre en harmonie. C'est aux éditions Les Liens qui libèrent. Merci à vous, Eric Julien, Marie-Hélène Strauss, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci, Nicolas.
Merci de votre invitation.
Et voilà, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de Parenthèse Managériale. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à partager ce podcast et à écouter nos autres épisodes autour d'expériences et de conseils toujours plus inspirants. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Et surtout, on l'a dit et répété, mais c'est important, prenez soin de vous.
managériale.
Ce rendez-vous a été proposé dans le cadre de l'exposition virtuelle du Salon du Management, à retrouver en ligne jusqu'au 23 avril 2022.